nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Et avec quoi? Qu'est-ce que ce poison? Et où l'a-t-elle eu? Mais il n'ose pas le lui en parler. Elle se demande pourquoi il n'a rien dit et se dit que son silence l'unit à elle pour toujours. Ils vivent ensemble en ne se parlant que très peu, mais ce n'est pas un silence hostile, plutôt un silence calme et tranquille. Il essaye d'écrire la journée pendant qu'il est seul. Apolline va toujours chez Michel. Elle a pris par cœur les chansons et sait se tenir par sur scène.
Et du peuple robuste fille, bonjour. Pierres enivrement, je veux au grand soleil qui brille avoir des mâles pour un mort. La Marianne pour en finir avec tes ennemis.
Un soir, Michel lui dit: tu es prête, on ouvre la semaine prochaine, je vais faire des affiches d'aider de Montmartre au Beugleau. Apolline lui dit: j'ai peur. Michel lui prend le menton et lui dit: avec une gueule comme la tienne, on ne craint rien. Apolline lui dit: faut que je te dise une chose, j'aime pas lorsque tu me touches. Elle lui lâche le menton: tu fais ta bégueule? Tu es en sucre? Non, c'est pas ça. Mais j'aime pas que toi, tu me touches. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ma salle? Non, mais tu es une femme, voilà. Et alors? Je t'ai pas entendu dire plus. Tu me comprends? Michel va s'asseoir. Le café a ouvert. Apolline tremblante a fait son tour de chant, habillée d'une robe noire, maquillée de blanc avec du noir autour des yeux, au milieu des cris, des rires, des injures. À la fin, elle était tout de même applaudie. Michèle est heureuse. Apolline, après le tour de chant, est allée s'asseoir à côté de Michèle. Au milieu de la salle, à une table devant deux verres et une bouteille de vin. Ça fume, ça boit, ça crie. Apolline se sent déconcertée et se demande ce qu'elle fait ici. Après une semaine de tour de chant, où elle a chanté tous les jours, le café n'a pas des amplis. Michèle est contente, mais Apolline en a assez.
Les abeilles, donnons-nous
Après la soirée, ou plutôt la nuit, une fois que le café était fermé, Michel sert un café à Pauline et elle. Apolline, en prenant son café, lui dit « Écoute, j'ai réfléchi, j'arrête. » Michel la regarde surprise. « Pourquoi ?»« Parce que je me sens mal à l'aise. Moi, tu sais, militer n'est pas mon affaire. » Michel lui dit « Militer, militer, c'est l'affaire de tous. » Apolline hausse les épaules. « Peut-être, mais moi, je ne suis pas... Je suis qu'une artiste. Lorsque je monte sur scène, c'est pour parler de choses, jouer pour que les gens puissent sortir de leur vie quotidienne. Toi, ton truc, non. C'est pour faire du militantisme. Moi, si je veux faire du militantisme, je vais dans une cellule d'un parti ou dans un syndicat. Mais là, ce n'est pas mon truc. Je lui dis, tu es bien une bourgeoise, toi. Le peuple, tu n'en as rien à faire. Ne dis pas ça. Mais est-ce que tu crois qu'en leur chantant leur misère, tu les aides? Je lui réponds, et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Je mets le spectacle au service de leur cause. Je ne suis pas écrivain. Si j'étais écrivain, j'écrirais. Ou si je savais me battre, je me battrais. Chacun son truc, non? Tu as raison, chacun son truc. Et puis, c'est pas le mien. Et puis toutes ces histoires d'égalité, de fraternité, j'y crois pas. Je ne peux pas y croire. Michel hausse les épaules et lui dit, tu t'imagines que les grands de ce monde ne sont pas faits comme toi? Je ne dis pas cela. Mais je crois qu'il y a des hommes plus aptes à diriger que les autres. Je crois qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que les autres. En égalisant tout le monde, tu mets tout le monde pareil. Les intelligents avec les idiots. Ceux qui ont passé des années à étudier pour que l'on aille de l'avant dans le savoir avec les ignorants. En faisant ça, tu fais que l'intelligent doit être moins pour qu'il ne dépasse pas l'ignorant. Michel lui dit. Tu es aussi contre l'égalité des sexes? Un homme et une femme sont différents. On n'y peut rien. C'est la nature qui le veut. Une femme a plus de devoirs. Elle doit faire attention à sa responsabilité à cause qu'elle peut avoir dans son sein une vie qui est autre que la sienne. Et si elle a cette vie, son corps ne lui appartient plus en entier. Elle le protège. Avec cette vie étrangère à elle. Les sexes sont différents, mais cela ne veut pas dire que l'on doit asservir l'autre ou que l'un est plus intelligent que l'autre. Michel lui dit, une femme doit être libre de faire ce qu'elle veut de son corps. Elle doit être enceinte si elle le désire. Elle doit vivre sa vie sans contrainte, comme un homme. Apolline lui répond, elle s'est enceinte malgré elle. Elle se le fait enlever, arracher. Mais cet enfant qu'elle a, qu'elle porte, ne lui appartient pas en propre. L'homme dans tout ça, si lui ne veut pas, Michel sert du café. Et lui dit, le corps de la femme lui appartient, l'homme n'a rien à dire. C'est immoral ce que dit Lila. Michel hausse les épaules. Je me moque de la moralité bourgeoise. Toi, tu es toujours moral dans tes gestes. Apolline ne répond pas. Elle pense à Adrienne, à ses frères, à l'opium, à tout ce qu'elle a fait. Elle baisse la tête et lui dit, des fois, je me dégoûte J'ai fait des choses sans réfléchir. J'étais jeune, mais ce soir, cette nuit, d'un coup, je me sens adulte. Peut-être que j'en ai assez de cette vie. Je veux être comédienne. Dire de belles phrases, être admirée, vivre dans une belle maison. Puis là, depuis que je suis à Paris, depuis que nous sommes à Paris, nous vivons une vie sordide. Michel lui dit, tu as appris la vie, la belle vie. Allez, il se fait tard. Demain, il va falloir remettre ça. Je t'ai dit que je ne voulais plus. C'est fini. Une bonne nuit de sommeil te remettra les idées en place. Apolline se lève et lui dit « Non, c'est fini. » Michel ose les épaules de fureur et lui dit « Tu me laisses tomber comme ça? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu trouveras une autre chanteuse? Tu sais, ça ne court pas les rues. C'est pas facile d'en trouver une. » Apolline se dirige vers la sortie. Michel la rattrape. Elle la fait tourner vers elle. Elle lui dit, la gorge serrée, les larmes aux yeux. Je t'aime, moi. Tu comprends? Oui, je sais, ma pauvre Michel. Mais j'y suis pour rien. Nous sommes trop semblables. Et puis, je n'aime pas faire semblant. Les copies. Il me faut, moi, du vrai. Lorsque je veux de l'amour, j'ai besoin d'un vrai homme. Tu comprends? Elle lui répond. Oui. Il me manquera toujours quelque chose entre les jambes. Elle pleure. Elle lui dit. Avec les femmes, ça n'a jamais marché. Pourtant, j'ai la peau plus douce. Et connais les femmes à fond. Apolline lui dit. Tu les connais? Trop. Et pour connaître, il faut être de l'autre bord. Tout d'un coup, Michel prend Apolline dans ses bras. Il l'embrasse profondément sur les lèvres. Apolline se laisse aller. Elle a l'impression de défaillir. Puis Michel lui dit, pars maintenant, avec ce baiser. Tu m'oublieras jamais. Sans rien dire, Apolline sort. Le jour se lève, la rue commence à s'animer, il fait frais. Apolline sait que c'est la dernière fois qu'elle va dans ce quartier. Une affiche qui est décollée d'un mur que le vent amène au pied d'Apolline. Elle la ramasse, c'est l'affiche de son spectacle. Lâche le papier qui s'envole. Oh, pardon, madame. Lendemain, ou plutôt plus tard, en fin de matinée, en prenant le déjeuner dans la salle à manger avec son frère, elle lui dit « J'arrête le chant. » Il lui demande « Qu'allons-nous faire ?» Elle lui répond « Nous partirons ailleurs. C'est fini ici. » Il lui dit « On ne peut pas. Il faut attendre le retour de Mathilde. » Mathilde et Paul. Elle lui dit « Tu écris ?» Il lui répond « Je n'arrive pas pour le moment, j'ai la tête vide. » Elle lui dit « Attention, on va vite t'oublier. » Les jours passent, Apolline ne fait rien et s'ennuie. Charles-André a des difficultés à écrire. Alors, tous les deux, pour des raisons différentes, se souviennent de l'opium. Lui pour créer, elle pour sa vie, pour oublier sa vie. Comme il reste un peu d'argent, Charles-André, un jour de déprime, sort en chercher. Une fois entré chez lui, il s'enferme dans sa chambre et sur ses ustensiles. Apolline, qui a l'odeur à faim, sent la chose. Elle va frapper à sa porte. Tu peux rentrer si tu veux. Il est allongé sur son lit et fume. Elle s'approche et lui dit « J'aimerais bien moi aussi. Viens. » Elle s'allonge près de lui. Lui prépare une pipe et la lui donne. Désormais, ils passent une grande partie de leur journée à fumer. L'argent file vite et ne s'en rendent pas compte. Dans la brume de l'opium, leurs sens aiguisés, ils redeviennent amants. Cela se fait sans qu'ils ne s'en rendent compte. Lorsqu'ils ne fument pas, ils sont dans l'apathie. Ils ne parlent pas, marchent et font des gestes comme des fantômes. Ils maigrissent, sont sales, mais rien les fatigue. Mangent très peu, car tout a le goût de la drogue. Ils ne vivent que lorsqu'ils fument. Et lorsqu'ils ne fument pas, ils ne supportent pas de vivre. Ils s'écartent. Et c'est comme si, malgré eux, ils avaient honte de ce qu'ils faisaient durant leur séance de pipe. Les jours passent. Et pas de nouvelles de Mathilde ou de Paul. C'est comme si le frère et la sœur étaient revenus à leur point de départ. Les jours passent, mais pour eux, il n'y a ni jour ni nuit. Ils vivent un temps confus qui est réglé par des séances de pipe et des heures sans. Un jour, Charles-André va pour aller chercher toujours la même chose de cet opium qui lui ouvre le monde des sens. Alors qu'il traverse le grand boulevard, un fiacre s'arrête net devant lui. La portière s'ouvre. Un homme bien mis lui dit
« Alors, tu me reconnais pas? Tu ne reconnais plus tes amis ?»
Charles-André le regarde bien et reconnaît Paul, méconnaissable, bien mis, en costume marine, chemise blanche, canne.
« Excusez-moi, Paul, mais je ne vous reconnaissais pas. »
Paul lui dit
« C'est normal, mais vous ne changez pas. Peut-être plus maigre et pâle, et vos vêtements sont plus très propres. Mais montez, montez donc, mon ami. »
Charles-André entre dans le fiacre. Paul dit au cocher d'avancer. On entend le bruit du fiacre et le bruit de la ville.
« Vous allez où ?»
Charles-André lui dit. « Chez le Chinois, pour ce que vous savez. »
« Je ne vous accompagne pas, ce n'est plus mon rang. »
Charles-André lui demande. « Comment va Mathilde ?» Paul lui répond.
« Oh, Mathilde, elle est morte en Espagne. Une faiblesse étrange. Je ne vous ai pas prévenu pour éviter de vous faire de la peine. Eh oui, c'est moi qui hérite de sa fortune. Et dire que nous aurions pu partager, c'est mieux ainsi. Je suis riche maintenant et libre. Et vous, que devenez-vous ?
Charles-André haut ses épaules, Paul lui dit.
Je sais. Vous avez du talent comme romancier, mais cela ne suffit pas. Il vous faut aussi vivre. Il ne faut pas toujours suivre ses désirs. L'ennui, l'amour, c'est beau, mais ça ne dure pas. Et puis, cela crée des ennuis. Il n'y a que deux types d'hommes dans la vie. Ceux qui font tout pour réussir et les autres. Vous perdez votre temps à Paris. Cette ville n'est pas faite pour les gagnants, n'est faite que pour les gagnants. Vous, malheureusement, vous rentrez toujours. Vous avez beau vous dépenser, vous faites du surplace.
Regardez, vous êtes à la même place qu'à votre arrivée.
Moi, lorsque j'ai un but, je fais tout pour y arriver. Regardez, vous êtes à l'emprise de l'opium. Vous êtes sale et sûrement sans argent. Comment allez-vous faire pour vous en procurer? Voler une passante? Prêter votre corps à des pervers? Vous pouvez même plus travailler honnêtement. Un conseil, cranchez chez vous, et peut-être qu'avec l'appui de votre famille, vous arriverez à vivre normalement. Votre sœur a du cran, elle. Elle ira loin, si vous ne l'ennuyez pas. Je vais vous faire descendre. Pardonnez-moi, mais je ne vais plus dans ces quartiers sordides.
Il frappe de la canne, le fiacre s'arrête. Paul lui tend la main et lui dit
« Adieu, je sais que nous ne vous reverrons plus. »
Charles-André sort du fiacre, abasourdi et honteux, car il sait que Paul a raison, qu'il est un raté, un bon à rien.
Les jours passent, l'argent commence à manquer. Charles-André demande un peu d'opium au Chinois à crédit. Le vieil homme, tout maigre, sait qu'il ne sera jamais remboursé. Il lui dit
« Non, mais si vous voulez vous faire un peu d'argent,
Allez vendre votre montre, alors léger en face. »
Charles-André, après avoir réfléchi, va dans le magasin.
Une boutique de quartier poussiéreuse. Un petit homme à cheveux gris lui demande « Vous désirez ?»
Charles-André montre sa montre en tremblant. Il lui dit « Combien ?»
L'homme la prend délicatement. C'est une belle montre en or, un bijou du 19e.
Il la regarde, la soupèse. Mais regarde plus Charles-André que la montre. Il sait que ce client vient d'en face de son ami chinois. Ses yeux pétillent de malice. Il lui dit
« Elle est bien vieille. »
Charles-André dit en tremblant
« C'est une montre de prix. Très belle. »
L'homme ouvre le boîtier et il lui dit
« Oui, mais le mécanisme est vieux. Les gens préfèrent le moderne. »
Charles-André tremble de plus en plus.
« Vous m'en donnez combien ?»«
Oh, je ne peux vous en faire que... »« Je ne peux pas faire plus. » »«
Elle en vaut 10 ou peut-être même 20 fois plus. Tout dépend de l'horloger qu'il a faite. »
Charles-André sait que c'est du vol, mais il ne peut faire autrement. Il se sent incapable de marchander ou d'aller ailleurs.
Il lui dit « Bon. » Le vieux sourit, met de suite la montre dans son tiroir de sa banquette, sort quelques pièces qu'il donne à Charles-André. Il le prend frénétiquement et quitte la boutique.
Arrivé chez le chinois, lui donne toutes les pièces sans compter. Le chinois sourit, s'incline et lui donne une portion de ce fameux opium.
Charles-André sort en courant pour aller chez lui.
Deux jours plus tard, il retourne chez le chinois.
Vous avez de l'argent ?
Il fait non de la tête.
Alors, pas l'opium. J'en ai besoin. Trouve de l'argent.
Charlandé, furieux, retourne chez lui. Sa sœur lui demande
« Tu en as ?»«
Non, il faut de l'argent. Donne-moi ton collier. »«
Pourquoi te donnerais-je mon collier ?»«
C'est pour le vendre. Donne-le-moi. Moi j'ai bien vendu ma montre. Autrement on n'aura rien. »
Elle défait son collier, le lui donne.
« Tiens. »
Il le reprend et repart le vendre à l'horloger. Deux semaines plus tard, il va directement chez l'horloger, tremblant, en manque.
« Tu viens me proposer quelque chose ?»
Il baisse la tête et lui dit « Non, j'aimerais que vous me prêtiez de l'argent. »«
Pas question. »
« Il m'en faut, je te dis. »
« Et moi, il me faut un objet. Je ne suis pas un misanthrope. »
Charles-André voit tout tourner. Il y a des fourmillements sur tout le corps.
« J'en ai besoin, c'est vital. »
Les larmes aux yeux, de rage, d'un geste, il renverse tout ce qu'il a sur une banquette.
L'horloger furieux va vers lui.
T'es complètement fou ?
Charles-André l'attrape au collet et lui crie :
Donne-moi ton argent !
L'horloger sort son revolver de sa poche et lui plaque contre le ventre.
Lâche-moi ou je tire !
Charles-André le lâche. L'horloger crie :
Va-t'en maintenant !
Charles-André, tremblant, sort furieux.
Il faut absolument qu'il trouve un moyen pour avoir de l'argent. Il sait que ça ne sert à rien d'aller chez le chinois. Il ne peut pas le voler non plus. Il est trop entouré et risquerait un mauvais coup. marche derrière les rues au hasard, avec une idée en tête, l'argent, l'argent, l'argent.
Au bout d'un moment, fatigué, s'assoit sur un banc. La rue est peu fréquentée, car elle a tout un côté, un long mur noir et triste, où derrière se trouve un cimetière, lequel il ne sait pas. Il sait que c'est un cimetière parce que dépasse du mur, de l'autre côté, les croix. Il réfléchit et se demande ce qu'il pourrait bien faire. Il est prêt à tout. Et s'il passait une vieille dame avec son sac, il l'aurait attaqué pour lui prendre son argent. La morale ne signifie plus rien pour lui. D'ailleurs, vous en êtes souvent rendu compte. Mais il ne passe rien dans cette rue. Ce qui fait que ça le met en repos. Il ne voit pas le temps passer. Tiens, en parlant de passé, un homme vient vers lui. De loin, il a l'air grand, maigre, plus très jeune, habillé d'un manteau marine d'une canne. Il marche d'un bon pas. Lorsque l'homme est près de lui, il voit qu'il a le visage très laid et osseux, les cheveux grisonnants. L'homme passe devant lui, se retourne et le regarde, puis s'assoit près de lui. Jean-André ne bouge pas. L'homme l'observe et lui dit « Sans le temps, il fait gris. » Jean-André ne dit rien. L'homme le regarde bien et lui dit « On peut faire connaissance ?» Jean-André le regarde sans rien dire. L'homme lui dit « J'étais parti pour chercher quelqu'un. Je revenais bredouille et puis je vous ai vu. Vous êtes beau, vous savez. Si vous voulez, on pourrait passer un moment ensemble. » Charles-André le regarde une seconde, ahuri, puis calme son orgueil et lui dit « C'est très cher. » L'homme tremblant sort de sa poche un billet froissé. « J'ai que ce billet. » Charles-André lui dit « Ça peut aller. » L'homme, satisfait, lui dit « On va quelque part. » Jean-André hausse ses épaules et lui dit « Je ne connais pas un endroit. Moi aussi, il y a un terrain vague pas très loin. » Jean-André se lève et lui aussi dit « On y va. » L'homme se lève et se met en marche. L'homme lui dit « Je suis vraiment confus pour vous. J'espère que je vous dégoûte pas trop. Je suis vieux et moche. J'ai honte de faire ça, mais... Que voulez-vous? Le cerveau ne vieillit pas à la même vitesse que le corps, et les désirs sont restés les mêmes que lorsque j'avais 20 ans. Chaque fois que je vois un beau jeune homme comme vous, je souffre. J'ai tellement envie de le toucher. Des fois, je me mets à en suivre. Ils sont tellement beaux avec leur petit corps gracieux, leurs jolies petites fesses, leurs frimousses. Je vous assure, c'est que j'ai lutté pendant un long moment avant de passer. Avant de penser à une personne comme vous. J'avais honte. Mais j'avais honte de moi. Malheureusement, cela fait un an que je n'ai pas touché à un corps. Alors,
Je me suis dit que je vais bientôt partir. Il faut encore que je sente, que je tousse cette chose sublime. Vous avez un très joli corps. Votre visage est magnifique.
Jean-André lui demande. C'est encore loin ?
Votre visage est magnifique.
Jean-André lui demande. C'est encore loin ?
Non, là-bas, l'autre côté de la rue.
Ils y vont. Jean-André a hâte que ce soit fini. Enfin, ils arrivent devant une palissade en bois. Le vieux soulève de grandes planches et lui dit
« C'est ici ».
Jean-André passe, le vieux aussi. Il se trouve dans un terrain vague avec des tas de détritus. Ça sent l'humidité et la fumée. Jean-André, tout ça, il se dit que c'est qu'ici qu'il va, comme les chats, dans un endroit pareil. Le vieux lui dit
« Venez derrière, ce tas de... Ils seront tranquilles. »
Jean-André se rend là. Il le suit. Ils vont derrière un tas qui se trouve presque contre la palissade. Jean-André se met contre la palissade et dit
« Donne l'argent. »
Le vieux lui donne le billet et lui caresse le visage.
« Tu es beau, très beau. »
Il donne un baiser sur la joue.
« J'espère que je ne te dégoûte pas trop. »
« Fais vite !» Le vieux descend ses mains le long de son corps. Jean-André ne sent rien.
« Quel corps admirable !»
Puis d'une main tremblante, il essaye de lui descendre son pantalon. Charles-André l'aide. Il reste ses omoplates au mur et regarde le ciel. Le vieux lui a descendu son pantalon. Jean-André sans qu'on lui touche ses parties intimes à travers le caleçon.
« Tu as de très belles fesses. »
Il lui descend son caleçon. Charles-André ne bouge pas. Il ne bande pas. Le vieux se baisse, lui caresse les fesses, prend les couilles dans ses mains qu'il tripote. Malgré lui, Charles-André commence à sentir quelque chose.
Une petite pipe, ça te fera du bien.
Et le vieux se met à le sucer goulûment en tenant d'une main ses couilles qu'il malasque et de l'autre main, il pelote les fesses. Charles-André se détend. Le vieux lui mordit le gland. Il bave. Il le suce pendant un quart d'heure. Charles-André voit qu'il va jouir, mais sait comment faire. Il jouit et éjacule dans la bouche de l'autre con. Tant pis pour lui. Le vieux se relève, l'air joyeux, les lèvres et le menton pleins de sperme. Ça dégoûte Charles-André. Le vieux se penche vers lui avec son visage taché et veut l'embrasser. Charles-André l'en empêche. Le vieux lui dit
« Tu es mon petit oiseau. J'ai rarement vu un aussi beau garçon. »
Puis, prend son mouchoir et essuie le visage. Charles-André prend le sien et essuie son sexe, les couilles et les cuisses pleines de baisers du vieux, puis jette le mouchoir, se rhabille. Ensuite, il se dirige vers la sortie du terrain vague. Le vieux le suit.
Que tu es beau, que tu es beau. Tes fesses sont un délice.
Pour sortir du terrain vague, le vieux demande.
On se voit quand ?
Charles-André ne dit rien et se sauve en courant.
Vite, vite, il retourne vers les Chinois pour lui donner de l'argent.
Tu en as trouvé ?
Donne ! Le Chinois va lui préparer son paquet.
Les jours passent. Ils ont de plus en plus des difficultés d'argent. Le loyer à payer, manger un peu, se chauffer et l'opium. Apolline ne se rend compte de rien, parce que ce n'est pas elle qui va chercher la drogue. Mais lui, Charles-André, doit trouver l'argent. Au début, il cherche s'il n'y a pas quelque chose à vendre. Puis après avoir bien réfléchi, autant que soit peu, parce que son cerveau est plein de brume d'opium, il décide avec tristesse de se prostituer. Il va dans les rues et regarde. Il a appris à reconnaître les lieux pour ce genre de rencontres. Dans des endroits un peu calmes, près d'une pistière, d'un banc, dans un parc, où l'on voit toujours les mêmes jeunes gens qui attendent, assis négligemment, la mine de rien, habillés d'une façon qui avantage plus ou moins le corps. Des hommes plus ou moins mûrs les entourent, vont, viennent, quelquefois s'arrêtent et leur parlent. Ce genre de manège se fait discrètement, et pour les gens moins expérimentés, c'est-à-dire les gens qui ne cherchent pas, ils ne se rendent compte de rien. Passe devant eux sans faire attention. Mais lui, Charles-André, est devenu expert et sait voir ce trafic. Alors il se met dans un coin où la chose se déroule. Pas très visible pour ne pas faire connaissance à ceux qui sont déjà là, il se met contre un mur avec un manteau et regarde le ciel en fumant une cigarette. Son visage pâle, juvénile, attire les regards de ces messieurs, car il a l'air plus innocent que les autres. Il relève la jambe et plaque le pied contre le mur, puis s'amuse à serrer ses cuisses avec la cuisse qui est relevée et attend. Des fois, il attend longtemps. La plupart du temps, ce sont des personnes d'un âge qui l'interpellent, qui sont bien habillées, se sentent gênées, on le regarde triste. L'amour, ça rend triste chez les gays, j'allais dire. En tout cas, chez ceux qui passent par ce genre de service. La plupart du temps, Charles-André ne les regarde pas. Emmène le vieux dans une allée. Et au fond d'un recoin, ils font ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas grand-chose, des attouchements primaires, genre touche-pipi, des maternelles ou préadolescents vers 14 ans. Là où
nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.